Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on démarre avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Aya Nakamura fait-elle l'unanimité parmi les Français? Hier sur C8, le célèbre chanteur guadeloupéen Francky Vincent a relancé le débat sur le choix de la chanteuse pour la cérémonie d'ouverture des JO. Il l'a même comparé à une Twingo, sous-entendu à une voiture bas de gamme, une prise de parole saluée par le consultant en entreprise DGG Antoine Diers.
Merci à Francky Vincent pour son honnêteté. Il n'est pas dans le politiquement correct, il n'est pas dans la lecture raciale,
etc. Qu'il n'est pas dans le politiquement correct,
et il dit, mais attendez, c'est absolument nul, pourquoi on fait ça? Merci, c'est une irruption de la réalité et du bon sens.
Est-ce qu'Aya Nakamura est une Twingo, Benjamin Amar?
Non, mais je trouve que, alors moi honnêtement, musicalement, Aya Nakamura, c'est vraiment pas ce que j'écoute, vraiment je... Voilà, elle a sa carrière et tout, mais c'est pas une artiste que j'écoute du tout. Mais je trouve que la campagne contre elle, qui mélange tout d'ailleurs, est ignoble. Voilà. Et d'ailleurs, les propos de Monsieur Vincent, qui, à ce que je sache, n'est quand même pas la petite fleur des petites pois en matière de qualité musicale.
Bah, vas-y, Francky, c'est bon.
Oui, oui, très bien, mais bon, voilà. Ah, oui. Mais en l'occurrence, la traiter de Twingo, c'est extrêmement désagréable. C'est une parole publique qui est très insultante. Et d'ailleurs, dans le passage des Grandes Gueules, on voit bien qu'on est en train de, certains mélangent tout. Oui. C'est pas là que, moi, je parle pas de l'origine ethnique de Madame Nakamura, je parle de ce qu'elle chante. Bon, moi, c'est pas ce que j'écoute. Oui. Il est indéniable qu'elle a du succès. Il y a donc un choix qui se fait en fonction du succès. Mm-hmm. La polémique derrière, y compris les insultes publiques permanentes, personnellement, je trouve ça ignoble.
Vous êtes d'accord avec ça, Jérôme Lavrieux?
Non, mais franchement, j'y connais rien en musique, mais Francky Vincent qui se moque d'Aya Nakamura, c'est quand même la planche à roulettes qui se moque de la Twingo.
C'est clair.
Donc, la Twingo va plus vite que la planche à roulettes. Donc voilà, je trouve qu'elle a beaucoup de talent et que c'est une des artistes françaises ou francophones qui vend le plus dans le monde. On n'en a pas tant que ça. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Et arrêtons de faire des polémiques, il n'y en a pas lieu. Si il y a que les gens de ma génération qui vont comprendre ce que je veux dire, mais ce qu'a fait Monsieur Francky Vincent, c'est 36-15, j'existe. On parlait pas de lui en disant ça, on parle de lui. Il va en vendre un petit peu de sa seule chanson connue.
C'est pas pour ça qu'on a envie d'aller écouter Francky Vincent, tu vois.
Non, pourtant c'est un grand mélomane, mais qui s'ignore. Hein.
Oui, oui, ouais, c'est pas pour ça qu'on le connaît forcément. En tout cas, elle va quand même avoir une énorme pression sur les épaules, Aya Nakamura, lorsqu'elle va chanter lors de la cérémonie des JO.
Si parce c'est que, elle, parce qu'on ne le sait pas encore.
Enfin, je pense que ce sera elle quand même.
Non, elle mais, fera partie, mais il y en aura d'autres.
Oui, bien sûr, mais c'est elle qu'on attend. C'est-à-dire que les autres, en vrai, ils sont tous éclipsés. On peut te donner n'importe quel nom désormais. T'as qu'une envie, c'est d'entendre Aya Nakamura, de voir comment elle va se débrouiller sur du Edith Piaf, si c'est sur du Edith Piaf, et de voir ce que ça va donner. Donc ça lui met quand même une énorme pression.
Ouais. Je suis désolé parce que Michel Sardou a dit non, mais moi j'aurais adoré qu'il se soit lui.
Moi aussi, un duo Michel Sardou et Aya Nakamura, mais ça aurait été
c'était
génial.
C'était un truc du Gorafi, hein, je vous rappelle.
Bah ouais, mais c'était une bonne idée. Le face-à-face RMC ce matin. Jean-Luc Mélenchon a-t-il été victime de censure? Le leader de la France Insoumise souhaitait faire une conférence à Lille en compagnie de Rima Hassan, une militante franco-palestinienne très controversée. La conférence a été deux fois interdite, d'abord par le président de l'université, puis ensuite par le préfet. Un grave problème démocratique que dénonçait ce matin sur RMC la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot.
Rendez-vous compte qu'hier, en une journée, pour la deuxième fois, la conférence de Rima Hassan et de Jean-Luc Mélenchon a été annulée. Puis, vous avez l'interdiction de la manifestation qui doit avoir lieu dimanche, un référé en cours, une manifestation contre le racisme et l'islamophobie. Je le dis sur la conférence, dans quelle démocratie, en pleine campagne électorale, des oppositions ne peuvent pas exercer leur liberté
vous
de réunion
avec la campagne électorale
et d'expression? Bien sûr. Dans quelle démocratie ça existe? Dans quelle démocratie?
Oui, mais sauf que je pourrais vous dire que que finalement la conférence a eu lieu, mais que dans une république bananière, en l'espèce, elle aurait été annulée et elle n'aurait pas eu lieu.
Oui, et bien si elle a eu lieu, c'est parce que nous avons tenu bon. Et je suis fière qu'il n'ait pas réussi à faire taire les voix de la paix.
Juliette Briens, est-ce qu'on peut parler de censure concernant Jean-Luc Mélenchon?
Oui, voilà. Moi, j'ai aucune raison de censurer mes ennemis. Je les combats sur le plan politique, sur le plan des idées. Et je ne m'abaisse pas à leur méthode. Et vraiment, la droite la plus bête du monde, pardon de leur dire, c'est ceux qui font exactement ça, qui se plaignent de la censure permanente dont on est victime. Vous pouvez encore voir M. Éric Zemmour et M. Orban à Bruxelles.
Oui, c'est pas le gouvernement français, là.
Oui, non, mais bien sûr, mais c'est une censure générale. J'ai bien compris, c'est à Bruxelles.
Emmanuel Macron a désapprouvé, hein, justement.
Aller faire la même chose à nos ennemis et à ceux à qui on reproche de nous le faire tout le temps. C'est absolument ridicule. Jean-Luc Mélenchon a le droit de s'exprimer, comme chacun. Et il faut évidemment le combattre sur tous les plans, sur le plan des idées, avec des arguments concrets. Mais c'est tout, en toute démocratie, avec la liberté d'expression. Mais on a de plus en plus tendance, et je le dis tout le temps, à prendre des mesures incroyables avec la liberté d'expression, et à prendre des libertés, pardon, avec la liberté d'expression dans ce pays. Pour moi, c'est un des droits fondamentaux en France le plus menacé.
Jérôme Lervieux, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non, parce que moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est leur tract avec leur invitation. Vous avez en bas à droite un logo avec le drapeau palestinien qui reprend la carte. Il n'y a pas l'État d'Israël.
C'est le logo de l'association qui organisait la conférence.
Et ça ne justifie en rien. En France, on ne fait pas de manifestation publique dans laquelle on nie l'existence même de l'État d'Israël. Ça a des relents d'antisémites. L'antisémitisme en France, ce n'est pas une expression, ce n'est pas une liberté d'expression, c'est un délit. Et donc pour moi, rien que pour ça, il fallait interdire cette conférence.
Benjamin Hamar, il fallait interdire ou pas la conférence ?
Alors, moi je partage pas les propos de Jean-Luc Mélenchon sur ce qui se passe, notamment la manière, certaines déclarations qui ont pu être faites, certains tweets qui ont été écrits. Je m'en suis expliqué ici. Pour autant, moi je pense que c'est une grave erreur que de censurer. La question au Proche-Orient, c'est une question complexe. Qui remonte à plusieurs décennies, qui nourrit des débats virulents depuis longtemps. Depuis 1967, les débats, y compris dans les universités françaises, ont été virulents. Je pense que c'est en laissant les réunions se faire, les expressions se dérouler, qu'on peut effectivement, c'est la première chose pour avoir ensuite un débat serein. Bien évidemment, si pendant la conférence des propos sont tenus qui sont inacceptables, ils seront
Sur leur invitation même.
Non, mais alors, sur ça, sur la question du logo, moi j'ai écouté les responsables de la France Insoumise, il y a eu encore récemment, même sur BFM, M. Bompard, ils font allusion au fait que, par exemple, le logo de l'UEJF est aussi, ne montre pas les frontières. Bon, de toutes les façons, quoi qu'il en soit, je pense que on doit laisser l'expression se faire. Si à l'intérieur, il y a des gens qui disent que l'État d'Israël doit être supprimé, eh bien là, c'est un propos qui méritera effectivement d'être qualifié. Mais attention toutefois, soyons précis, ce qui est punissable par la loi, c'est l'expression de l'antisémitisme.
Exactement.
Mais donc, l'expression écrite est aussi punissable.
Moi, personnellement, je tiens à dissocier les deux choses. L'antisémitisme est punissable par la loi. L'antisionisme, le fait d'avoir effectivement une hostilité viscérale à l'égard d'Israël, c'est un point de vue que je ne partage pas, mais c'est un point de vue qui a le droit de s'exprimer. Et de la même manière, il y a des gens aussi qui vous disent dans le spectre politique que la Palestine n'a pas existé, que c'est un État qui ne doit pas exister. Ça n'est pas punissable par la loi. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des principes applicables pour tout le monde. Sans ça, on développe effectivement des hostilités politique profonde.
Et on leur donne l'occasion de se victimiser, c'est absolument contre-productif parce que maintenant ils sont sur tous les plateaux en train de dire regardez, nous sommes victimes, etc. Et donc on n'a pas débattu, on n'a pas combattu personne sur le plan des idées et c'est totalement catastrophique.
Donc ils ne sont pas censurés.
Les GG ce matin sur RMC, pour ou contre un durcissement du retrait de permis? C'est ce que vient de voter l'Italie afin de sanctionner immédiatement les contrevenants pour des fautes graves. Un retrait de permis court pourra donc être immédiatement appliqué en cas de non-respect des feux tricolores ou encore de l'utilisation du téléphone au volant, une mesure que partage la fonctionnaire des GG, Zora Bitton.
D'abord, on rigole pas avec la route. La route, c'est sérieux. C'est pas un terrain de jeu où on fait n'importe quoi. Donc, du point de vue pédagogique, oui, ça peut être dissuasif sur le moment parce que tu prends la route pour partir en vacances ou tu bosses et on te dit, tu te mets sur le côté, tu ranges ta voiture, il y a une dépanneuse qui vient, qui la ramène chez toi et on te prend ton permis. Ça fait drôle quand même. Donc, moi, je suis assez pour. Maintenant, je pense que les gens, quand on va faire ça, alors il y a les gens très sérieux et responsables qui vont se dire, on me retire le permis 15 jours, je ne vais pas rouler, je trouverai un autre moyen parce que je ne veux pas me mettre dans une situation difficile, encore pire que 15 jours de permis en moins. Et puis il y a les fous qui vont quand même rouler.
Est-ce qu'il faut durcir les conditions de retrait de permis, Juliette Briand, c'est-à-dire en tout cas retirer le permis pour peut-être un temps court, mais pour plus de choses?
Moi, je suis partagée parce qu'en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est le permis et la voiture pour certaines personnes. Ouais. C'est ce qui les fait travailler. Tout simplement, c'est un.
Mais on leur enlève pas si elles ne contreviennent pas à la loi. C'est-à-dire qu'on leur enlèverait le permis si elles font une faute.
Oui, mais pour quel type de faute? J'ai besoin de savoir.
Tu prends le téléphone au volant.
Pour un excès de vitesse.
Téléphone au volant. Téléphone au volant, par exemple, tu sais que tu ne dois pas prendre le téléphone au volant.
Oui.
Je pense que tout malheureusement, fait. Beaucoup de gens.
Non, mais c'est vrai, ça.
Mais tu sais que tu. Voilà, donc à partir du moment. Même si tu as besoin de ta bagnole, justement, si ta voiture, c'est hyper important pour toi, bah, tu ne prends pas ton téléphone au volant. Voilà. Et dans ces cas-là, sinon, tu sais qu'effectivement, bah, la sanction, elle peut être terrible.
J'ai du mal à m'exprimer. Je ne sais pas. Vraiment, c'est pour une fois, je tiens à le dire.
Oui, c'est vrai que c'est pas rare.
Voilà.
Tu en me laveras.
Moi, je suis à fond pour ce type de mesure. Ouais. D'autant plus si c'est essentiel pour toi. Tu fais attention. On en revient au débat qu'on a eu avant sur les enfants. Si tes enfants sont importants pour toi, tu fais attention à ce qu'ils commettent rien. Enfin, c'est pas un petit délit de téléphoner en conduisant. Tu vois pas le gamin qui passe devant toi.
Tout le monde a le Bluetooth maintenant.
C'est pas un petit délit de passer au rouge. Parce que sinon, tu te fais buter par une autre voiture qui n'avait rien demandé. C'est peut-être toi ou tes enfants qui vont la conduire, qui eux vont avoir des séquelles graves, si ce n'est avoir un accident mortel. Donc, perdre 15 jours pour te rafraîchir les idées, parce que ça fait pas seulement les jeunes, mais parfois 10, 15, 20, 30 ou 40 ans que tu as ton permis, parce que ça concerne aussi des personnes plus âgées. Et je suis pour une autre mesure, c'est que si tu es contrôlé en état d'ébriété ou sous stupéfiant en conduisant ta voiture, on supprime le permis et la voiture est confisquée, même si ce n'est pas la tienne.
Ouais. Oui, alors le problème, c'est que c'est quand même assez discriminatoire. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, si par exemple, toi, tu as les moyens d'aller prendre un taxi ou d'aller prendre d'autres choses parce que tu n'as pas ta voiture et ton permis, je veux dire, ce sera plus facile pour toi que pour quelqu'un qui effectivement fait les 3-8 et vit à la campagne et ne peut pas se payer le taxi et tout. Donc en fait, la mesure, elle ne sera pas prise de la même manière pour tout le monde. Quoi.
Et c'est indispensable pour toi, la voiture, tu conduis pas bourré, tu conduis pas en ayant fumé et tu grilles pas les
feux tricolores. Mais tu vas avoir des gens qui vont mieux s'en sortir que d'autres pour la même
cause. En fait, comme ça, on aura sauvé la vie à quelqu'un qui a pas les moyens.
En fait, ce qui est intelligent peut-être, c'est parce que là, ce qui se passe, c'est que normalement, là, si on conduit avec un portable, on enlève des points, et après, on se prend une suppression de permis très longue qui là peut être vraiment très handicapante, alors que là, ce serait plutôt dans l'esprit, on retire moins longtemps mais plus vite dès le début pour éduquer quoi. Voilà. Je le trouve plutôt intelligent.
C'est une peine rapide, en fait. Ouais. Voilà.
Premier délit.
C'est un peu ce que je préconise pour les jeunes.
Bah, on a vu que récemment, je crois que c'est au mois de mars, les chiffres de la sécurité routière n'ont pas été bons du tout.
Horrible.
Et donc,
une hausse de 31%
voilà,
du nombre de morts.
Ça, 30%, j'avais vu ça. Donc, je pense que, si on a réussi, enfin, qu'on raconte pas d'histoire, si on a réussi à faire baisser les chiffres de la sécurité routière depuis un certain nombre d'années, c'est avec un certain nombre de mesures coercitives qui ont fait que, il y a eu une prise de conscience. Ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas tenir un discours, là aussi, branché sur courant alternatif. On voit qu'il y a une volonté de taper du poing sur la table par rapport à des familles de jeunes qui créent un certain nombre de difficultés. Par rapport à la sécurité routière, on ne peut pas, de la même manière, estimer que c'est en ne bougeant pas que les lignes vont bouger. Donc je pense que c'est en lien avec ça et je pense que c'est une bonne idée.
Ah, il faut faire comme en Italie. Donc, Apolline Matin, ce matin sur RMC. Prenez-vous votre douche tous les jours? C'est un préjugé que les étrangers ont sur les Français. Nous ne serions pas très propres. Bah oui, voilà ce qu'on pense de nous. Une étude nous a comparé avec les Américains et Sébastien Krebs nous en présente les résultats. Est-ce qu'on est propre ou pas? La réponse.
D'abord, qui ne se lave pas tous les jours? Alors, c'est quasiment quand même un Français sur 5, 19%.
Eh bien, on est 5 autour de cette table. nous, on ne s'est pas lavé ce matin.
Aux États-Unis, c'est encore pire. 30% des Américains ne se lavent pas quotidiennement. Brossage des dents, là, les Français sont plutôt bons élèves. Nous ne sommes que 4% à ne pas nous laver les dents tous les jours. Et aux États-Unis, c'est presque un Américain sur 10 qui laisse la brosse à dents de côté certains jours. Par contre, aux États-Unis, on se lave plus souvent les mains qu'en France. C'est vrai qu'ils sont un peu plus, 96% à se laver les mains en sortant des toilettes. En France, c'est un peu moins. Et en plus, on se rend compte que les habitudes se perdent. C'est-à-dire que 12% des Français disent qu'ils se lavent les mains moins souvent qu'à l'époque du Covid. On avait pris des bonnes habitudes.
Ah oui, on a perdu certains bons réflexes.
Voilà. On est propre, on n'est pas propre. Tout le monde se lave tous les jours.
Attends, oui.
Très bien, parce que vous ne le diriez pas.
Non, deux fois.
En vacances, ou alors quand t'es vraiment en mode glande dans le canapé tout le week-end, que tu skippes un jour, quoi. C'est pas du coup la fin du monde, quoi.
Mais jamais de la vie, mais même si je glande sur mon canapé, je vais me doucher avant. Je préfère glander propre.
Évidemment, quand on a une vie active et qu'on va au travail tous les jours, il y a une douche par jour, c'est évident. Mais quand on traîne à la piscine et qu'on est en été, que c'est les vacances et qu'on prend
le moment où on, une douche.
On oublie de prendre sa petite douche. C'est pas très...
Ça, c'est impossible. Ah, non,
mais l'été, c'est pas possible. Hein,
mais même l'hiver.
Moi, je ne sais pas.
Tu vas te laver dans la mer.
Sans avoir pris une douche.
Mais oui.
Je rentre dans mes draps en étant propre. Mes draps, ils ne sont pas là pour me nettoyer. Ils sont là pour dormir dans de bonnes conditions. Et le matin, bah, je prends ma douche. Voilà,
t'as pris ta douche le matin. T'as glandé sur ton canapé toute la journée.
Et bah oui, bah
arrive le soir. Et t'as pas non plus accumulé une saleté incroyable.
Mais si.
Tu ramènes tous tes trucs dans ton lit. Bah.
Et tu vois, en ce moment, regarde, il y a plein de pollen, etc. Pour tous les allergiques, je peux dire tous les allergiques, le soir, là, en ce moment, et bah, ils se lavent et ils se lavent les cheveux. C'est-à-dire, au moins, ils se rincent les cheveux pour enlever tous les pollens et tout, parce que sinon, ça, c'est le meilleur moyen de passer une nuit absolument atroce.
Je peux pas me permettre d'aller en été, de pas prendre deux douches par jour.
Non, mais pour entretenir ses défenses immunitaires,
je suis comme Benjamin, je me lave les cheveux deux fois par jour.